Alors, oui, on peut passer à la diapo suivante, au chapitre 26. Ça doit être 26, j'ai dû me tromper de référence. Matthieu, chapitre 26, nous allons lire, en fait, Jésus à Gethsémané. Il y a trois passages dans la Bible qui nous parlent de Jésus à Gethsémané. On va les lire tous les trois ce matin. Donc, je commence à lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, et non pas 22. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Voilà, on va lire dans le passage de Marc, qui est bien entendu similaire, avec quelques nuances, et on en fera de même pour Luc. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il ne savait que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'en est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. » Et enfin, le passage parallèle dans Luc. Luc, au chapitre 22, verset 39, « Après être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers, ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre et se mit à genoux et pria, en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Voilà, donc trois textes qui parlent de la même chose, avec quelques nuances. Vous avez, je pense, saisi au passage les petites nuances, on les reprécisera. Et il y a également un parallèle dans l'évangile de Jean, mais il est très court, il dure un verset, et Jean ne rentre pas dans ce détail. Et c'est très important de comprendre pourquoi Jean ne rentre pas dans ce détail. Parce que l'évangile de Jean est un évangile qui présente avant tout Jésus comme le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, il présente les attributs vraiment divins de Jésus, et il ne va pas insister sur ce côté Gethsémané où on voit un Jésus parfaitement humain, on y reviendra tout à l'heure, un Jésus qui nous rejoint dans nos difficultés, dans nos deuils et dans nos tristesses. Et c'est de ça que je vais parler ce matin. Alors, c'est peut-être un message qui n'est pas encourageant, parce que parler des tristesses et des difficultés dans un monde qui parle de plaisir, de joie, c'est un peu antinomique, mais on verra que la Bible ne parle pas que de ça. On va prier. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que cette parole a été faite chair et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous le voyons ici dans ces passages. Nous te voyons, Jésus, plein de grâce et de vérité, plein de souffrance et de tristesse, dans tout ce que tu as à nous apprendre. Seigneur, que ta parole soit glorifiée maintenant, qu'elle soit bénie. Que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses nous aider à comprendre ce que cette parole a à nous dire. Amen. Alors, c'est facile de lire ça, parce qu'on connaît la fin, on sait qu'il y a la Pâque, on l'a fêtée il y a quelque temps, on sait qu'on est dans une période d'entre-deux, on attend l'Ascension, c'est jeudi, hein, c'est un jour férié, on va en profiter. Donc c'est facile quand on connaît la fin. C'est comme Joseph, on lit l'histoire de Joseph, on sait que ça se termine bien. Mais si on était à la place de Joseph, là, les 17 ans en prison, ou si on était comme Job, X mois à passer comme ça, méconnaissable, ben, ce n'est pas si simple. Donc je voudrais ce matin casser un peu le mythe du raccourci rapide. C'est « Ah, Jacques, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » D'accord ? C'est vite vu, hein ? Regardez comme un sujet de joie complète. Ben, c'est parfois pas facile. Donc je vais parler ce matin du deuil, au sens large. Ce n'est pas que le deuil de perte d'un être cher. Le deuil revêt énormément d'aspects. Et d'ailleurs, dans la langue française, on n'utilise que ce mot-là, la perte, le deuil. La langue anglaise est beaucoup plus riche puisqu'on a d'autres mots, hein, le mot bereavement, on a le mot mourning. On a le mot « grief », donc il y a plusieurs nuances dans le deuil. Donc voilà, on posera le cadre hein, de tout ça. Je vous amènerai à réfléchir quel type de deuil peut-être vous êtes en train de vivre. Parce qu'on verra que la vie, en fait, est une succession de deuils. Et on verra que nous, habitants du monde occidental, je suis reconnaissant d'avoir des amis africains parmi nous parce qu'ils ont une autre vision des choses, au moins pour ceux qui ont été élevés dans leur pays. Mais le monde occidental a parfois une vision déformée de ces choses, et notamment le milieu évangélique. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ce matin, on va casser le mythe du raccourci rapide. Donc on regardera les modèles bibliques de deuil, et j'ai pris celui-là parce que c'est vraiment un modèle central, mais il y en a d'autres. On verra que derrière le deuil, il y a des bénédictions cachées, mais pour atteindre ces bénédictions cachées, il faut respecter un certain processus. Et là, la Bible nous enseigne. Et malheureusement, on voit très peu d'enseignements, voire pas du tout, sur cette question, parce qu'on n'ose pas l'aborder, parce qu'on est des Occidentaux, parce qu'on a peut-être des modes de pensée déformés. On a besoin de revenir, en tout cas, nous plonger dans la parole de Dieu, nous comprendre le contexte dans lequel ça a été écrit. Et puis, on élargira. Et je vous laisserai quelques questions de réflexion. Alors, j'ai conscience que ce sujet est un sujet délicat. C'est un sujet qui est long. Je n'aurai peut-être pas le temps de tout traiter. Mais sachez que nous organisons depuis le début de l'année, et ça se prolongera l'année prochaine, tout un cycle sur une année, sur comment vivre ses émotions de manière saine en tant que chrétien. Et notamment, le deuil nous enseigne à ça. Et bien traverser son deuil nous apprend. On verra que ça va élargir notre âme. Alors, j'ai la petite manette là. Malheureusement, l'actualité récente a remis en avant des faits divers où des familles ont été endeuillées. Alors, c'est sûr qu'on rend hommage et puis on oublie jusqu'au prochain, mais il reste des familles endeuillées, il reste des enfants orphelins. Il reste des vies brisées. Et plus généralement, la crise qu'on est en train de vivre a généré des bouleversements et des deuils considérables. Alors j'ai parlé d'une perte d'être cher, Bien sûr, nous nous souvenons notre cher Marcel PCA qui nous a quittés à cause du Covid. Il a été ancien pendant de nombreuses années. Beaucoup ne l'ont pas connu, mais c'est un ancien, c'était un pilier de l'Église. Puis il y en a d'autres qui nous ont quittés, Christiane Martin, on a eu Albert, on a la sœur de Myriam, le papa d'Annabelle. Moi-même, j'ai perdu mon papa l'année dernière, ça a été difficile pour moi. En plus, il n'était pas chrétien, donc je ne sais pas s'il est parti avec le Seigneur ou pas, c'est un déchirement supplémentaire. Donc ça, c'est le deuil tel qu'on l'entend. Mais il y en a qui ont perdu dans cette crise, qui ont perdu des entreprises, qui ont perdu un travail. On a tous perdu de la liberté. On a perdu des relations humaines, des agapes. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui me parlait ben, vivement les agapes. Ben oui, on a perdu tout ça. On a peut-être perdu sur le plan financier. On a perdu sur le plan de la sécurité. On a perdu nos illusions. On pensait qu'on vivait une période de croissance indéfinie. Et puis, on s'est rendu compte qu'on a des limites et des faiblesses parce qu'on est humain. Donc, vous voyez que le deuil recouvre tout un tas de choses. Alors, bien sûr, on ne vivra peut-être pas des drames comme celui que vous voyez ici sur cette diapositive, sur cette policière de Rambouillet, mais chacun de nous a eu ou aura des pertes dans la vie, des phases de deuil. On peut perdre un rêve d'enfant. Je voulais être danseuse, je voulais être peintre, mais mes parents en ont décidé autrement. Ils ont voulu que je fasse ingénieur, médecin. J'ai peut-être perdu un mariage. J'ai fait une transition, j'ai perdu un pays. On a des amis ici qui viennent d'Angola, qui viennent de Centrafrique, qui viennent de Côte d'Ivoire, du Cameroun, qui ont quitté leur pays. Moi-même, j'ai eu un grand-père qui, à l'âge de 20 ans, a quitté la Russie pour échapper à la mort et il n'a jamais revu son pays. Et puis, on vit un deuil de... On prend sa retraite, c'est un vrai deuil, la retraite. Il y a énormément de gens qui font des dépressions. On peut faire un deuil de sa santé. Moi, à 37 ans, j'ai été opéré du cœur, 6 pontages. J'ai dû faire le deuil d'une certaine santé. Puis peut-être j'avais un projet pour mes enfants, et puis mes enfants, ben, ils suivent une autre voie. Peut-être j'ai un deuil à faire de mon idée de Dieu. Je suis rentré dans la vie chrétienne, on m'avait promis le paradis, on m'avait promis une vie facile, et là j'ai galère sur galère. Quel deuil! Peut-être je dois faire un deuil d'une certaine vision de l'Église. Je pensais que l'Église c'était peace and love. Et puis, ce n'est pas tout à fait le cas. Et puis, je dois peut-être faire le deuil d'une amitié. J'ai été trahi. Je pensais que ça durerait et ça n'a pas duré. Donc, vous voyez que le deuil recouvre beaucoup de choses. Comment ça se fait que ça ne passe plus? Tu peux m'aider, Aurélien? Donc le Robert définit le deuil au sens large comme toute perte ou frustration. Ce n'est pas seulement l'événement du deuil, c'est aussi toutes les manifestations extérieures, mais c'est tout un processus psychologique que nous allons détailler. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'on a un problème dans notre pays, c'est qu'on vit dans un monde qui ignore le deuil, qui ignore la mort, qui tend à cacher les choses. Et j'aimerais vous amener à réfléchir. On va prendre une petite minute. Et pendant ce temps, je demanderai à Aurélien de nous passer une petite musique qui revient sur Jésus à Gethsémané. C'est un chant d'exo, extrait de l'album The Way, qui dit « Comme tu veux ». Et j'aimerais que chacun puisse réfléchir ce matin. Quel deuil est-ce que vous traversez en ce moment ? Je vous ai donné plein d'exemples, mais chacun a un deuil personnel. Réfléchissez, parce que j'aimerais qu'au travers de la parole de Dieu, de ce message, vous puissiez faire le lien entre votre deuil et peut-être des choses que vous allez apprendre ce matin. On peut lancer la musique ? On va prendre une minute, pas plus, pour réfléchir à ça.
La nuit. comme tu veux, mon Père, comme tu veux, comme tu veux, mon Père, comme tu veux. Éloigne de moi cette coupe, Père, tu le peux, mais comme tu veux. Comme tu veux, il me veut.
Donc, je vous disais, dans notre monde occidental, on a un problème, c'est que notre monde, il est construit pour être toujours plus, plus vite, plus haut, mieux. Donc notre monde interprète le deuil comme une invasion, comme un dérangement dans un plan qui devrait se dérouler vers le haut et vers la droite. Le deuil, c'est une perte de contrôle. Il faut absolument la rétablir, il faut revenir aux commandes et il faut foncer parce qu'on est paramétré comme ça. Et dès notre école, dès notre plus jeune enfance, on est conditionné à ça. Même dans la vie chrétienne, on n'a pas le droit d'être triste. Où est ta foi ? Oh, si tu avais la foi, tu pourrais déplacer les montagnes. Marc 11, 22. Oh, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, Paul l'a dit, réjouissez-vous. On n'a pas le droit d'être déprimé. On n'a pas le droit d'être malade. On n'a pas le droit de souffrir. Sinon, on n'est pas un bon chrétien ou on est un chrétien avec une petite foi. Dans l'Église, il y a des chrétiens qui ont une petite foi et d'autres qui ont une grosse foi. Ceux qui ont une grosse foi, ils donnent des conseils à ceux qui ont une petite foi. Donc, on est formaté, même dans l'Église, pour adopter un comportement inadapté face au deuil. Et pourquoi est-ce que c'est difficile de bien vivre son deuil et ses pertes ? Ben, tout simplement parce que le deuil, c'est une souffrance. Le deuil, on souffre. Et aujourd'hui, on fait tout pour éviter la souffrance. On ne voit pas les gens mourir, ils sont cachés dans des hôpitaux, dans des EHPAD. Alors que la Bible nous dit que Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance, Ésaïe 53. Et face à la souffrance, on va fabriquer des mécanismes de défense pour ne plus y penser. Et puis, on a plein de gens qui vont nous encourager, « Allez, il faut que tu tournes la page, il faut que tu passes à autre chose, etc. » Il y a plein de mécanismes de défense. Je n'ai pas le temps de détailler. Ceux qui viendront faire le cycle, si vous voulez, ben vous verrez, il y a plein de protections, on peut le dénier, on peut minimiser, on peut blâmer les autres, Dieu, on peut intellectualiser, spiritualiser, il y a plein de mécanismes de défense. Il y a des addictions, il y en a qui se tuent au travail, etc. Voilà. Je ne détaille pas, mais on pourrait en parler pendant une heure. Moi, j'ai fait un travail personnel là-dessus, je m'aperçois, par exemple, le deuil de mon père, j'ai minimisé. Clairement, j'ai minimisé, j'ai fait comme s'il n'y avait rien. Et j'ai entraîné ma maman là-dedans, et je suis en train de rattraper ça. Un an après, je suis en train de le rattraper parce que c'est important de vivre ce deuil avec elle. Et puis aussi, on ne sait pas exprimer ses émotions. En fait, on pense ses émotions. Il y a plein d'enseignements sur les émotions, c'est des enseignements intellectuels. On pense ses émotions. Comment tu te sens ? Vous demandez à quelqu'un, il dit « je pense que ça va, je suis un peu bouleversé », etc. Là, on est dans les pensées, on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans le cœur. On est dans la... voilà. Là aussi, il y a un gros travail d'intelligence émotionnelle. Ça fait 25 ans qu'on est en train de s'apercevoir qu'en entreprise, il n'y a pas que le QI et les mathématiques et le rationnel, il y a aussi l'intelligence émotionnelle. C'est un autre encore sujet très vaste. Même dans l'Église, je vous ai dit, on entend « Allez, t'inquiète pas, il faut rebondir, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Le verset passe partout. Donc, on se prive en fait d'une richesse que la Bible enseigne pourtant largement sur la réalité de la souffrance et le vécu correct du deuil, parce qu'on veut se réfugier dans autre chose, parce qu'on a du mal à saisir la pensée de Dieu, et on se prive alors de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Personnellement, je n'ai jamais entendu de message sur la tristesse, sur le chagrin. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet tabou qu'il faut éviter. On casse le moral des gens, il vaut mieux parler de l'amour de Dieu. Ce n'est pas inutile de parler de l'amour de Dieu, au contraire. Mais je veux dire, la Bible, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et quand vous regardez la Bible, il y a énormément, énormément de passages. Tout à l'heure, Philippe nous a cité le psaume 100, qui est un psaume de reconnaissance, très adapté au culte ce matin. Ben, vous tournez deux pages plus loin, le psaume 102 est un psaume de lamentation d'un malheureux lorsqu'il expose sa plainte devant l'Éternel. Il est en train de vivre son deuil. Mais celui-là, on a du mal à le lire. Donc voilà, la Bible est équilibrée, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Utile, nous dit Paul à Timothée 2, Timothée 3, 16. Eh bien, quand on regarde le peuple juif savait gérer le deuil. Vous vous souvenez comment ça se manifestait un deuil dans le peuple juif? Très simple, on lit des dizaines de fois ça. Vous n'allez peut-être pas le trouver, mais dès que je vais vous le dire, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai !» Comment ça marchait le deuil? Il déchire ses vêtements, il se couvre de sacs et de cendres, il se jette de la poussière sur la tête et il gémit. C'est pas rien, hein? Alors on se dit, oh ben c'est rigolo, c'est les Juifs, ils n'avaient rien compris, nous occidentaux, on est mieux, nous on tourne la page. Ben non, le peuple juif, il savait faire, et je pense que si c'est dans la Bible, ça a quelque chose à nous enseigner. Alors revenons un peu à Jésus, à Gethsémané, parce que c'est intéressant de voir comment Jésus va gérer ce deuil. Et peut-être si, même si on n'a pas beaucoup de temps, je vais insister là-dessus parce que ça va vous donner des pistes. D'abord, Gethsémané, vous savez ce que ça veut dire? Gethsémané, ça veut dire quoi, étymologiquement, en grec? Ça veut dire pressoir. Pression, vous connaissez la pression? Vous avez eu des pressions des fois? Donc Gethsémané, c'est le pressoir. Jésus est pressurisé à l'extrême. Il est tellement pressurisé qu'à un moment donné, sa sueur devient comme des grumeaux de sang. On y reviendra. Donc, comment est-ce que Jésus fait pour gérer son deuil? Regardez, là, c'est vraiment des choses utiles. Avant d'en parler, je voudrais quand même rappeler, parce que pendant longtemps, pendant les premiers siècles, il y a eu des hérésies. Il y a des gens qui ont dit, OK, Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme, mais en fait, à Gethsémané, à un moment donné, oui, il a eu sa faiblesse, mais sa partie divine a pris le dessus et l'a aidé. Mais ça aurait été un autre homme, non. Mais Jésus, sa partie divine, vous voyez, ils ont dit il y a une maldonne. Ça a été vraiment combattu comme une hérésie. Et ça a été jusqu'en 451. J'ai vraiment des soucis avec... Oui, alors, vous pouvez le faire pour moi, s'il vous plaît, parce que c'est très dérangeant. Avancez la diapo, s'il vous plaît. Au concile de Chalcédoine, ce point de doctrine a été clarifié. Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme. Alors, ne me demandez pas, allez demander à Philippe ou à Jérémie comment on fait pour avoir 100 plus 100 égale 100. Mais Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Et le Jésus qu'on voit à Gethsémané, c'est vraiment un Jésus qui est pleinement homme. C'est-à-dire, c'est nous, quoi. C'est un homme là qui réagit avec ses capacités humaines. Il a certes la pensée de Dieu, la relation avec Dieu, mais Jésus est pleinement homme. Donc, ce que Jésus fait, là, ce n'est pas exceptionnel, on peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On avance la diapo, s'il vous plaît. Encore. Le premier point, c'est qu'il prend avec lui des disciples. Un deuil, ça ne se vit pas tout seul. Il faut être accompagné. La Bible dit qu'ils arrivent à 12 et à un moment donné, Jésus va à l'écart, il prend avec lui son cercle intime, Pierre, Jacques et Jean, pour aller vivre ce deuil. Parce qu'on ne peut pas vivre ce deuil tout seul. Si on vit ce deuil tout seul, on risque de tomber dans les addictions, on va se refermer, on va se scléroser, on a besoin d'être accompagné. Alors dans les deuils extrêmes, un peu exceptionnels, des pertes non attendues, on va dire, oui, en général, les gens ont beaucoup de compassion, mais... Parfois, dans des petits deuils, je ne sais pas si on peut parler de petits deuils, mais dans des deuils moins catastrophiques, comme la perte d'un enfant, la perte d'un frère, d'une sœur, une personne qui n'aurait pas dû mourir à l'âge où elle est morte. Voilà. Donc, Jésus se fait accompagner par son cercle intime. Ça, c'est un premier point. Diapo suivant. Ensuite, Jésus va exprimer ses émotions. Il ne va pas les penser, il va les exprimer. Et regardez le texte qui nous dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il fut saisi d'angoisse, d'effroi. » On voit vraiment quelqu'un qui lutte avec cette souffrance, cette incertitude. hein, jusqu'à l'évangile de Luc. Hein, on a vu que Luc était un médecin, un historien. Donc, il nous parle d'un phénomène qui existe, qui a été décrit physiologiquement. La sueur qui devient des grumeaux de sang, c'est un mécanisme physiologique de dilatation capillaire devant une angoisse extrême. C'est un mécanisme qui est connu, qui est expliqué d'un point de vue cellulaire. La sueur perle au travers, il y a une dilatation des vaisseaux. Ça a été expliqué médicalement, c'est pas pour rien. Alors Luc subodorait ça en tant que médecin, il connaissait pas à l'époque. Voilà, donc Jésus va exprimer ses émotions, il va dire tout ce qu'il ressent. Et quand vous regardez par exemple dans les psaumes, il y a 2/3 des psaumes qui sont des psaumes de lamentation, d'expression d'émotion. Relisez le psaume 102. Prière d'un malheureux lorsqu'il est devant l'Éternel. Prière, psaume 57, David dans la caverne quand il se cache de Saül. Hein, c'est pas de la rigolade, là. Saül le poursuit avec une troupe. S'il le trouve, c'est fini pour lui. C'est l'angoisse de la mort. Donc Jésus exprime ses émotions. Troisième point, Jésus garde le contact avec le Père. C'est très important parce que si on n'est pas accompagné, qu'on vit son deuil tout seul, je connais beaucoup de gens dans le deuil qui se replient et qui perdent le contact avec Dieu. Ils ne viennent plus à l'église, ils se sentent honteux, je ne sais pas, il y a plein de choses qui se passent. Moi, je me souviens, j'avais un prof de philo en terminale. Un jour, il parlait de sa foi, il me dit « Moi, j'ai perdu la foi. » »« Ah bon, vous avez perdu la foi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je n'étais pas chrétien à l'époque. Il me dit bah, « J'ai perdu mon père. » Donc, il devait avoir à l'époque peut-être une trentaine d'années, donc un père de 50, 55 ans, on ne meurt pas à cet âge-là normalement. Ben, il a perdu son père et ça l'a éloigné. Voilà, il a perdu la foi. Ben, Jésus, il n'a pas perdu la foi, il a gardé le contact. Hein. Il prie 3 fois. Il persévère dans la prière. Il sait que de toute façon, quoi qu'il lui arrive, il sait que quelle que soit l'épreuve qui se présente devant lui, il garde le contact avec le Père. Il prie le Père, il est en relation avec lui, il se met à part, il se jette à terre. Ça contraste avec les 3 reniements de Pierre. Pierre qui suit Jésus de loin, qui se retire, qui va renier Jésus 3 fois, ben Jésus, lui, il prie 3 fois, il persévère dans la prière. C'est vraiment un exemple, gardez le contact. Si vous êtes dans le deuil, si c'est dur pour vous, gardez le contact avec Dieu. Ne perdez pas. Dieu, on l'a vu ce matin, il est bon, il est bienveillant, sa bienveillance durera toujours, il est stable. Donc, il ne va pas vous lâcher. Quel que soit le deuil que vous vivez, il ne va pas vous lâcher. Quatrième point, ça vaudrait un message presque. Jésus, il est authentique. Il est intègre, mais pas dans le sens financier seulement. Il est intègre avec lui-même. Il n'a pas de masque. Il prend conscience de sa tendance naturelle. Il dit « la chair est faible ». Et je vous ai dit, Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Donc, à un moment donné, il est tenté. Hein ? Dans Marc, c'est là la nuance entre Marc, Luc et Matthieu. C'est que dans Matthieu, c'est « si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » Bon, non pas ce que je veux, ce que tu veux. Ok, ça va vite, quoi. On se dit, c'est bon, Jésus, bon, il est un peu tenté, mais après… Hein, c'est l'hérésie du avant-concile de Chalcédoine, c'est Jésus 100% Dieu, donc ça lui vient facilement, lui c'est facile pour lui, mais pas pour moi. Non, vous voyez, dans Marc, il est dit, « Toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » Il demande, point, « Éloigne de moi cette coupe. » C'est sa tendance naturelle, il est authentique. Il n'est pas en train de porter un masque, il ne se la joue pas. Combien de fois dans les deuils, on essaye de porter un masque parce qu'on se dit, oh, de toute façon, il faut que je vienne là, il ne faut pas que les autres voient, etc. Vous voyez, c'est vraiment important. Jésus nous montre qu'il a le droit de faire part de ses doutes. Il a le droit de faire part de sa volonté propre. Il a une volonté propre, c'est d'éviter ça. Pourquoi ? Parce qu'il est humain et parce qu'on a peur devant la souffrance et on ne veut pas y rentrer. Et c'est normal. Et le fait de le dire, c'est une preuve d'authenticité, c'est libératoire. Il n'y a pas de masque. Quand est-ce qu'on va enlever les masques ? Quand est-ce qu'on va être authentique ? Alors, je sais que ce n'est pas facile pour certains deuils. Mais en tout cas, c'est ce que Jésus nous montre ici. Cinquième point, Jésus est soumis. Il fait plier sa propre volonté qu'il a exprimée devant la volonté du Père. Et finalement, il agit, il fait ce qu'à un moment, Job déclare dans son dialogue. Je ne me souviens plus de la référence, mais ça me revient là. « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. » Ceux qui ont des Bibles électroniques, vous regardez. « Plier ma volonté », regardez dans la version Colombe, et puis vous allez retrouver le verset. « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. » Pas facile, ça. Et enfin, le sixième point, eh bien, Jésus trouve le moyen d'être un encourageur. Les disciples sont endormis. C'est Luc qui nous dit qu'ils sont endormis de tristesse, donc ce n'est pas des feignants. Hein. Eux aussi, ils sont angoissés, ils sont dans l'incertitude. Mais Jésus va les encourager, il leur dit « veillez, priez ». Il trouve encore la force, alors qu'il est complètement, vraiment dans une angoisse très profonde, dans une émotion de tristesse infinie, eh bien, il trouve le moyen d'encourager. Et souvent, dans les phases de deuil, eh bien, on retrouve du courage en encourageant d'autres personnes qui traversent la même chose. Donc Jésus ici est parfaitement équilibré dans toutes ses composantes. Vous voyez, très souvent, on pense que la vie chrétienne, c'est être quelqu'un d'hyper spirituel. On doit connaître par cœur toute la Bible, on doit être des théologiens avertis. Et donc le spirituel est très important, le reste est moins important parce qu'on est des chrétiens. Hein, le reste, ça appartient aux autres. Eh bien non, la Bible nous dit, Paul parle de corps, âme, esprit. La Bible nous dit qu'on est des êtres équilibrés. Et là, on voit Jésus qui est dans sa vraie humanité. Jésus est un humain 100%, en étant 100% Dieu. On voit toute l'humanité de Jésus à Gethsémané. On y passe un peu vite parce que voilà, on lit ça pour la scène, on prend le pain et le vin. Mais vous voyez que quand on revient sur ces six points, hein, il se fait accompagner, il exprime ses émotions, il reste en relation avec le Père, il est authentique et intègre avec lui-même, il fait plier sa volonté à celle du Père et il encourage ses disciples. Eh bien, quand on voit Jésus dans son humanité, eh bien, c'est un exemple pour nous. Et ce que la Bible nous enseigne, c'est que l'être humain est un être équilibré et que la partie émotionnelle, la partie intellectuelle, la partie sociale, tout ça, ça doit être équilibré en prenant exemple sur Jésus. J'avance. Il y a d'autres deuils dans l'Ancien Testament. Vous voyez, donc, hein, par exemple, là, ce n'est pas une perte. C'est à un moment donné, Mardochée se rend compte que l'édit du roi contre les Juifs va tuer tous les Juifs. Il prend son deuil. Esther, chapitre 4, verset 1. Il déchire ses vêtements, il se couvre d'un sac de cendre et il parcourt la ville en poussant de grands cris. Si c'était ça, s'il faisait ça à Lyon, il irait directement à l'hôpital psychiatrique du Vinatier. Mais pourtant, il le fait à l'époque et c'est quand même un modèle pour nous. On a le prophète Jérémie. Le livre de Jérémie est un livre de deuil, c'est un livre de lamentation. Vous voyez ici, donc c'est la fameuse peinture de Rembrandt hein, qui est au Rijksmuseum à Amsterdam. Jérémie qui pleure sur les ruines de Jérusalem. Donc relisez le livre de Jérémie, c'est vraiment le livre de l'amour de Dieu. Il y a un livre qui a été publié là-dessus, d'ailleurs, à la Maison de la Bible, « Découvrir Dieu à travers Jérémie ». Et puis, les Lamentations, c'est un livre de deuil. Hein, c'est un livre de deuil au milieu duquel il y a des richesses. Vous connaissez ces richesses. Hein. Quand je me souviens du poison et de l'absinthe, et soudain, Jérémie réalise que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc, relisez ce chapitre 3. Je vous ai dit, 2/3 des psaumes sont des lamentations. Il y a également l'exemple, là je n'ai pas le temps de m'arrêter non plus, mais l'exemple de David. Hein, David, lorsque, à la fin du premier livre de Samuel, deuxième livre de Samuel qui démarre, sur la complainte sur la mort de David. Et regardez, David ordonne aux descendants de Juda d'enseigner cette complainte. Ça veut dire qu'il en fait une complainte générale pour le peuple. Il aide le peuple à vivre le deuil de Saül. Saül qui voulait le tuer, qui a tenté sa vie. David va composer une complainte sur Saül parce qu'il était le roi. Ils ont vécu le deuil. Quand Moïse est mort, il y a eu 40 jours de deuil. D'accord ? Vous voyez ? Pleurer sur Saül. Vous auriez fait ça, vous ? Votre pire ennemi qui meurt, et vous faites une complainte sur lui ? David nous donne un exemple. Bon, bien sûr, il y avait aussi la perte de Jonathan, son ami. Hein. Et puis, il y a une tas de sortes de deuils. Relisez Joseph, le deuil de sa jeunesse, hein, le deuil d'une vie tranquille auprès de son père. le deuil de quitter un pays qu'il ne reverra jamais, le deuil de quitter une situation qu'il ne reverra jamais. À l'époque, quand vous étiez esclave, c'était à vie. Il était parti pour être esclave à vie, il était parti pour être en prison à vie. Lui aussi, il a dû faire un deuil. Et puis, j'en passe, et des meilleurs. Le deuil de Anne, premier livre de Samuel, des années qu'elle attend un enfant, il n'y a pas d'enfant qui vient. Le deuil d'Élisabeth, hein, Jérémie nous l'a rappelé, donc il y en a plein de deuils. Heureusement, il y a des trésors cachés. Et je voudrais vous encourager, justement, pour vivre ça, je voudrais vous encourager parce qu'il y a des trésors cachés dans le deuil. Premièrement, le deuil nous permet d'avoir une autre révélation de Dieu. Hein, bon, vous connaissez le livre de Job, si vous ne le connaissez pas, relisez-le. Hein, mon oreille avait entendu parler de toi, disait Job, je pensais te connaître, hein, c'est ce que dit Job. Mais maintenant, mon œil t'a vu, j'ai compris qui tu étais. Au travers de ma souffrance, hein, Job, il a tout perdu. Job, il a tout perdu. Et là, il a une nouvelle révélation de Dieu. Je n'insiste pas là-dessus. Le deuil permet d'avoir une autre révélation de soi. On devient plus vrai à soi. On tombe le masque, comme je disais tout à l'heure. Hein, c'est ce que Jésus a vécu. Hein, dans Hébreux 5, il nous est bien expliqué. Hein, il a appris bien qui fut le Fils, l'obéissance, par les choses qu'il a souffertes. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc on tombe le masque. Parce que la tristesse de la perte va nous vider de tout ce qui est inutile dans notre vie. Et pour se laisser remplir par Dieu, il faut enlever tout ce qui est inutile, sinon Dieu ne peut pas rentrer. Donc toutes mes arrogances, toutes mes certitudes s'en vont. Quand je vis ce deuil, quand je vis cette souffrance, je prends conscience de ma vulnérabilité, de ma fragilité, de ma dépendance de Dieu, ou je n'en prends pas conscience, et je continue à faire, comme le monde occidental me dit, toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fort. Ma propre volonté se fracasse contre un mur et je dois lâcher l'illusion de contrôler les choses parce qu'en fait, je ne contrôle pas grand-chose. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. En préparant ce message, je réfléchissais, j'ai fait un travail sur tous les deuils de ma vie. En fait, j'en ai deux pages. Il y a un deuil qui a été difficile pour moi, c'est le deuil de ma carrière. J'étais parti pour être vétérinaire. Et en fait, Dieu m'a pris à la fin de mes études et il a réorienté tout ça. Et ça a été dur pour moi de comprendre, de vivre ça. Surtout qu'il y a plein de gens qui sont toujours venus me dire « Ah, mais tiens, t'es plus vétérinaire, mais t'aimes plus, c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais ?» Et ça me met du doute, quoi. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait ? C'est, pour moi, c'est difficile. J'ai eu quasiment 30 ans de deuil, donc je commence un peu à sortir parce que vous verrez, dans les phases de deuil, c'est jamais terminé. Dieu ne nous laisse jamais au fond d'un trou. Mais ça a été difficile pour moi. J'ai eu plein d'autres deuils aussi. J'ai perdu mon papa, c'est un autre type de deuil. Je n'ai pas pu lui parler, il ne discutait pas beaucoup. J'ai beaucoup de regrets. Donc, vous voyez, je suis en plein dedans là. Je ne suis pas en train de vous donner des leçons en disant « les petits gars, c'est comme ça qu'il faut faire ». Je partage avec vous ce que j'ai découvert dans la Bible. On devient plus compatissant quand on sait absorber ce deuil et cette perte, parce que ça permet de mieux comprendre le deuil et la souffrance des autres. La souffrance nous instruit et elle nous permet ensuite de conduire les gens dans leur souffrance. Elle nous permet de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et Jésus, encore une fois, nous montre dans son humanité comment gérer tout ça, comment il a géré le deuil de Marthe et Marie. Il aurait pu dire, mais je sais ce que je vais faire, Lazare, pas de problème, hein, il va se relever des morts, tranquille. Eh bien, pas du tout, Jésus, il va pleurer avec Marthe et Marie. Il va partager leur souffrance. Et ensuite, il partagera la joie de la résurrection parce qu'il ira à Béthanie et il ira prendre le repas. Hein, au cours de ce fameux repas où Marie va casser un vase d'albâtre pour oindre Jésus avant sa sépulture. Donc Jésus nous donne cet exemple de celui qui pleure sur Jérusalem. Et puis le deuil nous rend plus patients. Vous savez, Moïse, à 40 ans, il s'est dit, ça y est, je vais y aller, je tue l'Égyptien et c'est bon, on sort d'Égypte. Ben non, Dieu, il a dit, attends, tu vas conduire 40 ans un peuple dans le désert, si tu n'apprends pas la patience, tu ne pourras pas les conduire. Donc il l'envoie 40 ans garder les moutons à Madian et il le rend plus patient. Et Dieu, parfois, est obligé avec moi de faire ces choses-là, peut-être avec vous aussi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on se vide du superflu pour pouvoir se laisser remplir. Mais on a cette espérance, Philippe l'a rappelé tout à l'heure, hein, cette espérance de l'Apocalypse où Jésus lui-même va essuyer toute larme de nos yeux, chapitre 21. Cette espérance des béatitudes où il est dit « heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés ». Et le mot « ceux qui pleurent », ce n'est pas juste une petite larme qui coule. Hein, dans le texte original, c'est dit, c'est ceux qui gémissent, qui se lamentent, ceux qui pleurent à chaudes larmes. Il faudrait dire « heureux ceux qui pleurent à chaudes larmes hein, ». Le texte de Matthieu 5, « heureux ceux qui pleurent à chaudes larmes parce qu'ils seront consolés ». Je n'ai pas le temps de vous parler de l'histoire de Gérald Sitzer. C'est vraiment dommage parce que lui a vécu un vrai deuil. C'est un Américain, 1991. Une famille, une très belle famille, 4 enfants. Un soir, il rentre chez lui. En face, il y a un conducteur alcoolique qui a sa femme enceinte à côté de lui. Il fait un écart, il percute frontalement la voiture. Résultat, le conducteur a sa femme enceinte morte sur le coup. Et lui, Gérald Sitzer, perd sa mère en même temps. Sa mère, sa femme et sa petite fille de 4 ans. Bon, je n'ai pas le temps. Il y a plein de citations. Vous viendrez, pour ceux qui veulent faire le parcours, on en reparlera. Alors, comment traverser le deuil? Comment bien traverser un deuil sur le modèle biblique? Eh bien, première étape, prendre conscience de ses ressentis, de ses émotions et savoir les exprimer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Là aussi, il y aurait un message à faire là-dessus, mais je vais assez vite. Ça, c'est la première phase. Prendre conscience de ce qui se passe chez moi. Pas être dans le déni, pas me droguer, me lancer dans des tas d'aventures, des tas de projets, etc. Ça ne sert à rien. Il faut vivre ce deuil, il faut le ressentir, et c'est douloureux, c'est difficile, mais il faut le faire. Deuxième phase, savoir attendre avec patience une phase qu'on dirait intermédiaire entre deux. C'est une phase de confusion que les disciples ont vécue, que Jésus a vécue à Gethsémané. Jésus, à un moment donné, il vit son deuil, il est dans le deuil de sa vie terrestre, il est dans le deuil de voilà, tout ce à quoi il aurait pu prétendre en tant qu'homme, il est dans le deuil de ses disciples qui vont l'abandonner, du refus de l'évangile par les pharisiens, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et il est dans cette phase d'entre-deux qu'on est en train de vivre chronologiquement, puisque l'ascension est… voilà. Et l'entre-deux, c'est l'entre vers la remontée vers le Père. Il retrouve sa place initiale à la droite de Dieu. Mais c'est cette phase intermédiaire dans laquelle nous gémissons. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 5, vous savez, ce texte qui nous parle de notre demeure qui est une tente qui un jour sera détruite. Nous avons dans les cieux un édifice qui a été fait par Dieu, qui n'a pas été fait par la main de l'homme. Aussi, nous dit 2 Corinthiens 5, nous gémissons, désireux de revêtir notre domicile céleste. On est dans l'entre-deux, on est dans l'attente, ce n'est pas encore là maintenant. Vous voyez, je vous ai parlé de mon deuil et de mon métier, ça fait 30 ans que ça dure. Et je suis toujours dans l'entre-deux, parce que Dieu prépare quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose dans ma vie, je ne sais pas encore, je commence à percevoir des choses, mais Dieu prépare quelque chose et c'est cette phase de confusion, dans cette phase de gémissement. Et c'est pour ça que Paul, dans ce chapitre de 2 Corinthiens 5, va dire « c'est pourquoi nous ne perdons pas courage ». C'est une phase difficile de confusion. Les disciples étaient dans la confusion. Quand Jésus est mort, ils pensaient que c'était fini. Pierre retourne à la pêche, Jean 21, allez, on retourne pêcher, on retourne à l'ancienne vie, etc. Ils sont dans une phase d'entre-deux. Parfois, dans le deuil, on est dans une phase d'entre-deux. Pourquoi ? Parce que dans cette phase d'entre-deux, on attend quelque chose de nouveau. Et pendant cette attente, eh bien… il faut accepter ses limites, accepter là où j'en suis, accepter que Dieu me limite et l'accepter comme une grâce. Et ça, c'est difficile. Si on ne se fait pas accompagner, si on n'a pas quelqu'un à côté, on ne peut pas. C'est difficile. Et puis la troisième phase, eh bien, c'est une phase où on va laisser Dieu faire renaître quelque chose de nouveau à partir de l'ancien. Et le hasard du calendrier a fait que ce matin, pour ceux qui lisent Méditation quotidienne, il y avait un texte de Marie-Louise Dugleux qui parlait de ça. Reconstruire sur d'anciennes ruines. Elle parle des ruines de Berlin. Hein. Elle parlait des Truman Frauen. Je ne sais pas si je dis bien, Rebecca, mais ce sont les femmes des ruines, hein, qui ont déblayé la ville pour en construire une nouvelle. Donc Dieu fait renaître quelque chose. Voilà, et c'est le texte, tout le sens du texte que Philippe nous a lu ce matin. Jean 12, hein, le grain de blé qui meurt, d'accord, il est dans une phase intermédiaire avant de produire quelque chose de nouveau. Et Philippe nous a bien dit qu'une défaite apparente, en fait, est une prémisse de victoire. Donc, le deuil, on vit son deuil, on exprime ses émotions, comme Jésus, on attend avec patience, dans une phase de confusion difficile, on accepte ses limites et on attend que Dieu fasse renaître quelque chose en nous. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur le deuil. Ça a été rapide. Juste pour vous dire que le deuil et les pertes font partie de notre vie. La vie est une succession de deuils. Vous savez, Jonathan Edwards, ça ne vous dit rien peut-être, Jonathan Edwards, c'est un prédicateur américain du 19e siècle qui est à l'origine d'un réveil spirituel dans l'Est des États-Unis, hein, très connu. Et dans sa prédication sur le livre de Job, il disait la chose suivante, « Nous vivrons tous ce qu'a vécu Job. Simplement, lui a vécu en accéléré sur une journée ce que nous allons vivre dans l'espace d'une vie. C'est-à-dire, nous allons perdre nos bien-aimés, nous allons perdre notre santé, nous allons être probablement trahis. Plus vous êtes en position de leadership et d'influence, plus vous allez être trahis. Nous allons perdre aussi notre physique. La Bible nous dit que Job était méconnaissable. Ses amis ne l'ont pas reconnu. Donc, quand on vieillit, on devient méconnaissable. On va tout perdre, on va tout laisser. Donc, c'est peut-être bien, maintenant, d'essayer de commencer à vivre nos deuils normalement, comme la Bible nous l'enseigne, parce que c'est une bénédiction. Et Gérald Sitzer, que je n'ai pas eu l'occasion de citer, nous dit qu'en fait, son livre, hein, c'est un vieux livre déjà qui a 25 ans, il nous dit au travers de son livre que le vécu du deuil et de la perte élargit notre âme, il la rend plus grosse si on la vit bien, si on vit bien le deuil. Si on ne vit pas bien le deuil, ça rétrécit notre âme, ça nous sclérose, ça nous renferme sur nous-mêmes, ça nous rend malade et aigri. Mais si on le vit bien, ça élargit notre âme, on devient plus compatissant, plus aimant, on devient en fait à l'image de Christ. Voilà, le deuil, c'est une souffrance, mais s'il est bien vécu, c'est un facteur de transformation. Et voyez, comment est-ce que je fais le lien entre ça? C'est la logique du « et ». C'est-à-dire, ce n'est pas le deuil et je tourne la page, c'est le deuil et la transformation. Et Gérald Sitzer le dit, il a écrit son livre 3 ans après, il souffre toujours de la perte de sa femme. On peut pas imaginer autrement. Une petite fille de 4 ans, une épouse bien-aimée, une mère, mais c'est le « et », c'est le « en même temps ». Je vis mon deuil et en même temps, je laisse Dieu faire renaître quelque chose, élargir mon âme et la maturité spirituelle. Vous voyez, c'est la maturité spirituelle, ce n'est pas que étudier la Bible en long, en large et en travers, connaître tous les livres, passer une thèse, un doctorat de théologie, c'est utile. Mais ce n'est pas que ça. La maturité spirituelle, c'est aussi vivre son deuil correctement. Je vous laisse quelques questions. Faites une photo si vous voulez. Quelques questions de réflexion. Et je vous souhaite un bon dimanche.